Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Alors, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, dès qu'on pourra vous présenter ces extraits, donc, de l'interrogatoire qu'a subi Alexandre Bissonnette dans les heures qui ont suivi son arrestation, on va le faire. On est vraiment, comme on dit dans le métier, stand-by. Le plan de match est arrêté. Les extraits sont déjà sortis parce que les journalistes ont eu accès à la totalité, donc, de l'enregistrement de l'interrogatoire, mais il est convenu qu'il faut d'abord présenter cet interrogatoire, cette bande vidéo, au palais de justice, dans la salle d'audience, et lorsque le visionnement sera terminé, là, les médias vont pouvoir diffuser, dans le fond, cette bande vidéo, et on a déjà donc sélectionné les moments clés, les moments les plus importants de cet interrogatoire. Évidemment, je ne peux pas vous en parler, mais je peux vous dire que c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, cet interrogatoire qui a duré plusieurs heures. Et d'ailleurs, Jean-François Brochu, qui est l'ex-enquêteur contre les crimes contre la personne qui va nous accompagner donc dans cette première heure, connaît celui qui a mené cet interrogatoire, le sergent-enquêteur Steve Girard. Il le connaît et pourra nous en parler. Par ailleurs, vous avez entendu certainement aux nouvelles ou ailleurs des extraits donc de cet échange suite à l'appel au 911 qu'a fait Alexandre Bissonnette, cet échange absolument hallucinant où on le sent totalement confus. Par certains moments, il dit ouvertement qu'il veut se suicider. À d'autres moments, il dit « Moi, j'ai jamais fait de mal à personne. Je suis pas un gars qui ferait du mal à quelqu'un, etc., etc. » Première question du répartiteur, « C'est toi le tireur? » Ben oui. Il répond ça, comme ça. Et s'enchaîne donc une discussion qui est effrayante. Puis c'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui vivaient dans sa tête. Quand tu l'écoutes parler, tu écoutes cet échange-là. Alors, en attendant donc qu'on puisse vous présenter les extraits de l'interrogatoire, on va quand même mettre la table en compagnie de Jean-François Brochu. Je vous en parlais il y a un instant, qui est expert en affaires policières, mais qui a été pendant longtemps enquêteur au crime contre la personne à la Sûreté du Québec. Jean-François Brochu, bonjour.
Bonjour, Bernard.
Et l'ex-juge Nicole Gibeault, juge à la retraite, qui est avec nous très souvent, qui a ce don de vulgariser la justice pour nous. Bonjour, Nicole Gibeault.
Bonjour, Bernard.
Nicole, d'abord, je vais m'adresser à vous. Parce que pour le commun des citoyens qui regardent cette procédure-là, tu te dis pourquoi ça en prend autant? Pourquoi fallait-il voir la vidéo de la fusillade? Pourquoi fallait-il voir les photos? Pourquoi fallait-il entendre l'appel logé au 911? Et maintenant, pourquoi est-ce à ce point nécessaire d'aller dans le fond, dans le détail? Pourquoi en faut-il autant?
Bien, écoutez, d'emblée, là, c'est tellement une bonne question. Je me fais poser ça depuis le début des représentations. Pourquoi pas avoir imposé une sentence, point final? Parce qu'une sentence, Bernard, c'est une sentence qui est individualisée. C'est une sentence qu'on donne à un individu pour les crimes qu'il a commis. Aussi odieux qu'il soit, c'est quand même un individu qui est sentencé. Et l'individu, on doit connaître l'avant de l'individu, le pendant l'infraction comme telle et l'après. On doit vouloir savoir ou connaître ses motivations. Et là, je parle comme ex-juge, là, parce que pour rendre une sentence, elle est discrétionnaire. Ça appartient au juge avec les éléments qu'on va lui démontrer. Alors, sa motivation, son comportement, son attitude, la consommation d'alcool, la consommation de drogue, son état mental, les circonstances, Bernard, qui ont entouré la perpétration de ces crimes odieux, avant, pendant, après, parce qu'on n'a pas fini. Là, on va entendre parler également de son état, j'imagine. Oui, ça s'en vient. Et puis les victimes, on les oubliera pas non plus.
Non,
mais on va les faire témoigner. On va avoir ce qu'on appelle dans notre jargon l'impact statement, ce que les victimes auront à dire s'ils veulent le dire par écrit ou verbalement. Alors, c'est un petit procès. Je le répétais souvent à la cour, c'est comme un petit procès.
Pour déterminer la sentence.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça.
En fait, déterminer la peine.
Puis ici, là, c'est pas n'importe quelle peine que le juge devra se pencher. Alors, on parle d'une peine qui pourrait potentiellement être historique. Donc, dans les circonstances, on est mieux d'avoir une abondance d'éléments et de faits que moins.
Oui. Mais par exemple, dans la bande là, sur l'appel au 911, quand on entend dire Bissonnette, j'espère que j'ai fait mal à personne. Des blessés, il n'y en a pas eu, j'espère, ce qui démontre à quel point le gars est confus, parce que quelques minutes auparavant, lors du même échange au 9-1-1, il reconnaît qu'il était le tireur. Oui. Et là, tu vois que ce gars-là est totalement mêlé.
Oui.
Hein?
Oui.
Et je me mets dans la tête de l'ex-juge que tu as été, là.
Oui.
Ou du juge qui est là présentement, là, et qui doit donc décider, au terme de tous ces visionnements, quelle serait la peine juste.
Ben, la peine juste...
Quand tu vois que le gars là, est visiblement confus et qui dit « J'espère que j'ai pas fait de mal à la personne alors qu'il vient de tuer
oui. »,
est-ce que le juge dit « ce gars-là, visiblement, a des problèmes de santé mentale, je pense, là, de confusion mentale, très certainement. » Et donc, est-ce que ça peut t'amener à dire, bon, ben, je ne vais pas y imposer 6 fois 25?
Bernard, il est un peu tôt, mais je vous dirais que oui, tous ces éléments sont importants. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est une confusion, un état de choc post-événement? Parce que c'est bien beau, là, quand il réalise peut-être, ou qu'il semble dire que c'est lui, pas il semble, il dit que c'est lui, puis qu'il réalise qu'il va se faire arrêter, puis qu'il veut en finir, puis qu'il veut se suicider. Là, il est dans un état, on le voit, là, on le sent, là, dans un état de choc, il est confus. Mais ça, la confusion après un événement comme ça, je pense que les policiers l'ont vécu, et, Jean-François va sûrement pouvoir le dire. Il y a des policiers, moi, qui m'arrivaient, puis disaient, écoutez, l'accusé avait les mains pleines de sang, puis il savait même pas qu'est-ce qui était arrivé, parce que ça peut arriver, ça. Alors, mais ce sont des éléments qui vont être nécessairement pris en considération, mais qui vont probablement, et je vous dirais nettement, être développés par des théories qu'on va sûrement entendre la semaine prochaine. Là. Est-ce que c'est lié à de l'alcool? Est-ce que c'est lié à de la drogue? Est-ce que c'est lié à son état mental? Est-ce que c'est les trois éléments? Et oui, c'est important pour le juge dans la détermination, parce qu'une sentence, là, c'est pas une vengeance à l'encontre d'un individu pour avoir commis les crimes les plus haineux qu'on aura jamais connus au Québec. C'est une sentence à un individu qui a tel âge, dans telle circonstance, et c'est ça qu'on veut comprendre.
Avant d'aller à Jean-François Brochu, le fait qu'il soit suicidaire, qu'il dise à quelques reprises dans cet échange avec le 911, moi là, je vais me tirer une balle, je vais m'en aller dans le bois, je vais me tirer. Puis t'as le répartiteur qui dit non, fais pas ça, tati. Est-ce que ça aussi, le fait qu'il soit suicidaire, ça va être prise en compte par le juge?
Oui, mais ça peut, comme je vous dis, être prise en compte pour l'effet après, juste pour après. Là, il réalise que tout est fini, là. Puis, on fait une parenthèse, je veux juste saluer ce répartiteur, que la bravoure, le courage incroyable. Et le doigté.
Le
sang-froid et le doigté. Bravo à cette personne-là, mais vraiment bravo.
Là, on va aller parler à Jean-François Brochu quelques minutes avant d'aller à la pause. Jean-François Brochu, d'abord, tu me faisais signe sur le répartiteur. Je pense que tu souhaitais ajouter quelque chose.
Non, ben justement, c'est le sang-froid que cette personne-là, dont cette personne-là a fait preuve et qui est, en cette semaine justement des répartiteurs, c'est un bel exemple de la préparation qu'ils doivent avoir. Quand ils répondent au téléphone au 911, c'est une boîte à surprises. Et là, on le voit au début de cet appel-là, qui fait quand même un peu un saut. Il réalise qu'il a le gars, que c'est l'appel, ça fait des dizaines d'appels qu'il a sur ce sujet-là. Quand il réalise qu'il a le tireur au bout du fil, on voit tout le professionnalisme qui entre en ligne de compte pour réussir à, ultimement, au bout de 50 minutes, régler cette situation-là, sans justement, en le gardant en vie. Parce que l'intention de Bissonnette, fort probablement, et on le voit dans cet extrait-là, c'était de commettre son événement, commettre son crime, oui. Et de partir en même temps.
Là, ce qu'on me dit, c'est que Jonathan Bernard, notre journaliste, vient tout juste ou s'apprête à sortir de la salle d'audience. Donc, on va aller à la pause immédiatement. Et ça se pourrait, mesdames et messieurs, qu'au retour, on soit capable de vous présenter donc ces extraits de l'interrogatoire de ce sergent détective de la Sûreté du Québec avec Alexandre Bissonnette dans les heures qui ont suivi son crime. Alexandre Bissonnette a expliqué sa folie meurtrière au lendemain de la tuerie qui a fait 6 morts et plusieurs blessés graves à la Grande Mosquée de Québec en janvier 2017. Jonathan Bernard, on te rejoint au Palais de justice de Québec. Bonjour.
Bonjour.
Jonathan, Alexandre Bissonnette s'est mis à table dans les heures qui ont suivi la tuerie lors de cet interrogatoire, donc mené par la Sûreté du Québec, par le sergent Steve Girard. Et ce qu'on apprend, c'est que c'est la paranoïa qui semble avoir guidé ses gestes. En tout cas, c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on entend dans la vidéo qui vous a été présentée et que vous allez maintenant nous résumer.
Oui, effectivement. Donc, un interrogatoire qui a duré au total approximativement 2h30, si on enlève les temps morts. On y voit Alexandre Bissonnette vêtu d'une combinaison blanche dans un petit cubicule blanc éclairé par des néons. Tout ce qu'on y retrouve, ce sont deux chaises, une table, une poubelle, une boîte de mouchoirs et deux bouteilles. Le meurtrier est en pleurs, respire fort, les jambes croisées, se tient la tête avec une main. Il explique, première des choses, ne pas avoir eu de blonde ou de chum. Il refuse de parler de son emploi chez Aimant Québec, bien qu'il soit en arrêt de travail. Il a seulement indiqué s'être fait blaster par son boss. Il aborde aussi la question de ses études qu'il a abandonnées, sa passion pour les échecs et celle pour la chasse au petit gibier qu'il a développé avec au contact de ses amis. Il parle de ses problèmes d'anxiété, de dépression qui ont débuté à l'âge de 14 ans, de ses pensées suicidaires, que 3 semaines avant la tuerie, il a changé de prescription d'antidépresseur pour quelque chose qui était mieux pour l'anxiété, a-t-il dit, du Paxil. Il dit ne pas avoir parlé de ses problèmes à ses parents. Il est dans le déni, ne croyant pas l'enquêteur lorsqu'il lui rappelle les 6 meurtres qui ont mené à son arrestation. Et c'est dans le dernier tiers de l'interrogatoire qu'il finit par aborder la tuerie et ses motivations après que l'enquêteur ait gagné sa confiance.
OK. Donc, on en apprend beaucoup sur lui.
Oui.
Mais est-ce qu'il se souvient de ce qui s'est produit quelques heures auparavant?
Bon, il a commencé en disant « Je ne suis pas un monstre » avant d'aborder les circonstances de la tuerie. Il a d'abord voulu savoir s'il avait atteint des enfants, car il dit avoir eu un flash qu'il y avait des enfants dans la grande salle de prière. Il confirme avoir fait attention pour ne pas les viser. Il explique, et je cite, que ça s'est passé comme un éclair. J'ai perdu le contrôle, a-t-il ajouté. Si je n'avais pas bu hier, je ne serais pas ici, a-t-il poursuivi. Et sachez qu'il a indiqué avoir bu du saké plus tôt en journée, mais estimé être correct pour prendre le volant. Il confirme avoir agi seul, mais ne se souvient pas d'avoir rechargé son arme alors qu'il l'a fait à 4 reprises. Et il se souvient non plus s'il y a une victime qui a tenté de l'arrêter. Ses souvenirs sont flous, comme en fait foi cet extrait.
Je m'en rappelle de rien de ça. OK. Vous m'avez dit qu'il y avait eu 6 personnes, puis ça, je trouve que ça se peut pas. Parce que j'ai tiré n'importe où. Okay.
Ça, tu te souviens d'avoir tiré n'importe où?
C'est juste le truc que je me rappelle.
Okay. Est-ce que tu te souviens qu'il y a des gens qui ont tenté de t'arrêter?
Non.
T'es sûr?
Oui. Quelqu'un qui a essayé de m'arrêter. Qui ça?
Une personne qui était là. À l'intérieur.
Elle a-tu réussi ou?
Ben non.
Mais elle n'est pas décédée, par exemple?
Oui.
Là, l'enquêteur a dû lui demander pourquoi il avait ciblé les musulmans, pourquoi il avait ciblé le Centre culturel islamique de Québec.
Ouais, il a d'abord voulu savoir s'il avait eu un maille à partir avec des musulmans dans le passé, ce à quoi Bissonnette a répondu avoir été victime d'intimidation et de harcèlement de la part de l'un d'eux en secondaire 4. Il a cependant ajouté, et je cite, « Je pense ça n'a pas rapport, par exemple ». L'enquêteur Girard est ensuite allé tout droit au but en lui posant la question suivante.
Mais hier soir, là, quand t'es parti chez tes parents, puis que t'as pris tes 2 armes à feu, où tu t'en allais?
Je pense que je me serais promené.
Puis pourquoi t'as choisi cet endroit-là?
Ben, moi je voulais sauver les gens.
Tu voulais sauver les gens?
Oui.
Sauver les gens de?
Des attaques terroristes.
OK.
Tu sais, peut-être avec mes actions, avant de me tirer dans la tête, plutôt que de rien faire ça chez nous, ou bien dans le bois quelque part, t'sais. Hier, grâce à ce que j'ai fait, il y aura peut-être 100 de personnes qui vont être sauvées. Peut-être 200, peut-être 300 personnes aussi. On sait jamais.
T'sais. On sait jamais.
C'est ça que je me suis dit.
Donc, hier soir, si
comme
je
ce qui s'est passé en Europe, puis au Canada aussi, puis aux États-Unis. Juste cet été, tu sais. C'est que je me suis dit que tant qu'à y être, tu sais, je pourrais essayer peut-être de faire quelque chose de bien, tu sais.
Alors là, dans le fond, il dit j'ai fait ça pour prévenir des attentats terroristes. C'est ça qu'il dit, dans le fond.
Oui, il semble faire une fixation sur les attentats djihadistes, ce qui aurait, vous l'aurez compris, alimenté sa paranoïa, une paranoïa qui va jusqu'à lui faire penser, et il l'a répété à plusieurs reprises lors de l'interrogatoire, que ses parents sont en danger.
Est-ce que toi, tu es capable d'en identifier un événement qui pourrait faire en sorte que, d'une certaine façon, tu as commencé à avoir des pensées ou une façon... Oui?
Ben, c'est sûr que c'est les attentats terroristes qui tuaient plein de monde qui m'ont fait penser à ça, tu sais.
T'as commencé à penser à ça, c'est quel attentat, la première? Qui a commencé à te toucher, là, puis...
C'était en 2014, avec l'attaque du Parlement.
Parlement à Ottawa?
Oui. Okay. Puis après ça aussi, le camion, tu sais, qui a écrasé plein de monde, puis tu sais, des enfants, puis tout ça.
À Nice?
Oui, oui, oui. Des femmes et des enfants, tu sais. Mm-hmm. 80 personnes, tu sais.
Oui.
Oui. 80. Hein. Puis.
Dans une fête où tout le monde pense qu'ils sont en sécurité.
Puis je suis comme sûr qu'ils vont venir comme tuer mes parents aussi et ma famille. Ça, j'en suis convaincu.
Donc, dans son esprit, Jonathan, il associe musulmans et attentats.
Oui, voilà, une association qu'il fait à tort dans son esprit, mais que pour lui, c'est comme automatique. Et bon, outre sa consommation d'alcool, oui. Il a expliqué qu'il y avait un autre déclencheur et ce pourquoi il a décidé de passer à l'action le 29 janvier 2017.
Est-ce que la journée du 29 représente quelque chose de spécial pour toi ou
oui.
Ça, c'est quoi?
Oui. Ben là, j'ai écouté la télé puis
yeah.
Oui. Puis on a su que le gouvernement canadien allait prendre plus de réfugiés. T'sais. Ceux qui ne seraient pas admis aux États-Unis seraient rendus ici. T'sais. Là, j'ai comme perdu la carte. T'sais.
C'est là que tu as décidé que ça allait être...
Oui, c'est ça. Ça ne vient pas que ça vienne comme en Europe. T'sais.
C'est hier matin que tu écoutais ça?
Ben, pendant la journée, oui. Okay. Comme en Europe, ce qui se passe en Allemagne, puis
okay.
En France. En Belgique aussi, aux Pays-Bas, en Norvège, en Italie, partout, tu sais. Ça s'en vient, tu sais, ça va venir ici, tu sais.
Ça,
c'est... Puis là, tu sais, je voyais ça, puis ils vont tuer mes parents, puis ma famille, puis tout ça, puis moi aussi, tu sais. Puis, tu sais, j'étais sûr de ça, tu sais. Puis là, ben là, il fallait que je fasse quelque chose. Je ne vais pas rien faire. C'est quelque chose, tu sais, qui me torturait à le faire, là, t'sais.
D'accord. Tu sais. Tu veux pas de protection.
Ça fait des mois que ça me torture là, à le faire, tu sais. À chaque jour, là, j'étais inquiet, j'étais anxieux à travers le plafond, tu sais. Puis... Okay. Je sais plus quoi faire, tu sais. C'est rendu, tu sais, que je voulais quasiment... Je voulais me suicider à cause de ça, tu sais.
Est-ce que t'en as parlé à quelqu'un?
Non. Non. Mais je pensais que les pilules régleraient le problème, par exemple. Mais ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a rendu pire.
OK. Et là, l'enquêteur va essayer, si je comprends bien, Jonathan, il va essayer, l'enquêteur, de parler politique avec Bissonnette pour essayer de savoir un peu quelles sont ses allégeances. Jonathan Bernard, me dit-on que la ligne a coupé, voilà. Ça arrive hein, quand on fait de la politique de la radio, dis-je bien, mon Dieu. Je suis un peu pris par surprise, n'est-ce pas? C'est tellement intense ce témoignage-là. Alors, il est revenu. Bonjour, Jonathan.
Oui, Bernard.
J'étais en train de te dire que l'enquêteur a voulu lui parler de politique. Il a voulu parler de politique avec Bissonnette
ouais.
et il n'est pas allé bien, bien loin, là.
Ben, en fait, c'est pour connaître ses allégeances et Alexandre Bissonnette a refusé. Par contre, il a fini par avouer lorsque questionné s'il était en accord avec les politiques de Donald Trump. Il a dit « ça dépend » et il a poursuivi en disant « je n'ai aucune idéologie ». Et comme vous avez pu l'entendre, Alexandre Bissonnette craint la venue de migrants au pays, mais plus particulièrement des musulmans, à un point tel qu'il croit que son geste était noble.
Est-ce qu'à l'université Laval, t'as eu des problèmes avec des musulmans?
Non, mais c'est sûr, tu sais, ça. Il y en a beaucoup, tu sais, puis moi, ça me stressait beaucoup, tu sais.
Ok.
Quand j'étais là, tu sais, on sait jamais ce qui va se passer, puis c'est constant, comme ça. Puis là, il va y en avoir plus, tu sais, puis plus. Puis là, moi, je savais plus quoi faire. Comme j'ai dit tantôt, je me suis dit aussi que ça peut-être sauver des vies, peut-être, ce que j'ai fait. T'sais. Je le rationalise comme ça.
Est-ce que
je ne suis pas un terroriste.
Est-ce que
je suis accusé de terrorisme, je ne suis pas un terroriste.
Fait que là, c'est quoi la suite des choses, mon cher Jonathan?
Bon, les représentations sur la peine se poursuivront. La semaine prochaine, ce seront des membres de la communauté musulmane, des victimes et des proches des victimes qui viendront témoigner des séquelles avec lesquelles ils doivent composer depuis cet attentat. Vous mentionnez qu'à une seule reprise, Alexandre Bissonnette, et c'est à la toute fin du témoignage, a fini par avouer qu'il avait honte d'avoir tué des pères de famille.
Jonathan Bernard, journaliste Cogeco Nouvelles à Québec, merci beaucoup pour le travail.
Au revoir.
On va s'arrêter, les auditeurs, puis au retour, on va analyser donc le contenu de cet interrogatoire dont on vient d'avoir le résumé en compagnie, bien entendu, de Jean-François Brochu et de Nicole Gibault. Dans un instant.